empreinte.
Marquer au fer, marquer son temps, laisser une trace, c'est le propre d'Empreinte Utile, le podcast de CBA, qui va à la rencontre de professionnels qui font le changement. Pas étonnant de retrouver une agence de design à l'origine de ces conversations, car le design recouvre l'innovation, les usages, les solutions pour améliorer la vie des gens. Et à l'ère où les marques et les entreprises sont partie prenante du changement de demain, le design devient clé pour révéler leurs engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. CBA vous propose de découvrir son écosystème de changemakers, des femmes et des hommes, qui proposent des solutions concrètes pour faire évoluer les marques, les entreprises, la société, les gens, le monde finalement. Bonjour à tous, je suis Julie Mahoumani, journaliste spécialisée dans les podcasts et curieuse des personnes et des entreprises qui mènent à un futur meilleur. Avec moi pour ce nouvel épisode, Laurence Bettine, brand stratégiste chez CBA Design, une expertise au cœur de l'agence. Alors moi j'ai découvert ce que brand stratégiste veut dire, mais est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ?
Alors, un brand stratégiste, il y a plein de noms hein, pour raconter ça. C'est aussi planeur stratégique, on utilise beaucoup ce nom-là. C'est quelqu'un qui ne plane pas, qui réfléchit beaucoup, qui est très curieux, qui s'intéresse aux gens, qui s'intéresse à l'époque où on vit et qui se projette dans l'avenir. Donc, c'est une personne qui suit les évolutions des comportements des consommateurs, travaille sur la création de tendances et travaille en collaboration avec des entreprises et des marques pour créer des produits, des services qui vont aider les gens au quotidien à aller mieux, j'espère, et à faire en sorte que le monde soit meilleur.
Est-ce qu'il y a brand stratégiste, donc il y a aussi la marque. Donc vous travaillez globalement, non, sur l'image de la marque ?
Alors on travaille sur les positionnements des marques, sur les raisons d'être des marques, hein, sur ce qu'elles apportent véritablement comme point de différenciation par rapport à leurs concurrents et sur l'incarnation de ces marques. Donc moi, mon métier, c'est de travailler dans une agence de design. Le design, c'est, dans le terme anglais, c'est atteindre un objectif. Donc le design, c'est bien incarner des idées, des valeurs, des mots dans quelque chose de matériel, de vivant, de réel, de concret, pour faire vivre des expériences. Donc notre métier, c'est ça. Et chez CBA, on a la chance de travailler sur tous les points de contact d'une marque. Donc ça veut dire tout ce qui est virtuel, internet, etc. Les magasins, tout ce qu'on appelle la shopping experience, et puis les produits, les packaging et tous les services.
Et alors, il y a quelques mois, vous avez signé une tribune pleine de sens sur le vrac. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu d'abord ce que c'est que le vrac et peut-être nous le montrer parce que vous n'êtes pas venu les mains vides?
Oui, alors le vrac, je crois que tout le monde connaît. Hein,
c'est non, quelque pas chose encore, de... pas tous. Non, c'est pour ça que je me permets de vous demander.
Non, mais acheter en vrac, en fait, ça existe depuis la nuit des temps. On achetait en vrac au début de l'humanité, etc. Acheter en vrac, ça veut dire acheter la quantité dont vous avez besoin dans votre emballage ou dans un emballage très léger comme celui-ci.
Et le raconter, qu'est-ce qu'il y a devant nous, parce que les auditeurs nous suivent.
Ce matin, je suis passée dans un magasin de centre-ville. Je me suis dit que j'allais acheter des lentilles vertes. J'ai hésité entre plusieurs sortes de lentilles. C'est l'un des intérêts du vrac, de voir dans des silos transparents les produits qu'on va acheter et puis prendre finalement. Là, j'ai pris un sachet qui était proposé sur place et avec une petite pression, j'ai eu une quantité qui me semblait très bien pour manger ce soir, figurez-vous. Et puis, j'en ai acheté un autre que je n'ai jamais essayé.
Il est très joli, très coloré. Alors,
voilà. Vous allez pouvoir en manger tout à l'heure.
Pistache, amande et surtout les cranberries, cranberries, je ne sais pas.
Exactement. Comment. Donc j'ai aucune idée du goût que ça doit avoir, mais j'ai trouvé ça assez sympa. Donc voilà, c'est acheter quelque chose et c'est surtout, je crois, le vrac aujourd'hui, les études le disent d'ailleurs, une possibilité d'acheter la juste quantité. C'est-à-dire vraiment payer pour ce dont vous avez besoin. C'est la clé d'entrée aujourd'hui de ce marché-là, avant l'environnement.
C'est ce que j'ai dit, oui, c'est ça. C'est des économies aussi.
Ce sont des économies. C'est être au plus près du producteur, au plus près du produit. Donc, ça veut dire qu'on va enlever un certain nombre de transformations du produit, en particulier des packaging qui sont des standards. Et puis, c'est aussi travailler sur le moins de gaspillage.
Alors, une agence du design qui parle du vrac, donc sans packaging, c'est pas contradictoire.
Vous avez raison. Ça pourrait l'être, mais ça l'est pas du tout. On a besoin d'emballage, on a besoin de packaging. L'une des problématiques du vrac, c'est justement la conservation. L'une des missions, vous le savez, du packaging, c'est de conserver les qualités des produits et c'est de travailler sur l'hygiène des produits. Alors, je sais qu'on va en parler tout à l'heure, mais en fait, j'ai choisi de faire cet article l'année dernière quand on était en plein confinement. Pourquoi ? Parce que tout le monde annonçait la mort du vrac en disant « On est en pleine pandémie, il y a des virus partout, le vrac c'est dégoûtant, il y a plein de microbes. »
Ah bien sûr, j'avais pas pensé à rapporter au Covid, évidemment. C'était
un vrai souci, quoi.
C'était un vrai souci.
En tout cas, une
ça
réflexion.
Pouvait l'être. Ça pouvait, voilà. Et en fait, le sujet de la conservation des produits à la maison est majeur. Aujourd'hui, on a un vrai problème de connaissance et de pédagogie du vrac auprès du grand public, même si on a plus de 20% des Français qui sont des clients réguliers, hein, donc c'est quand même quelque chose d'assez important, parce que les gens, en fait, le mettent dans n'importe quel conditionnement, le laissent ouvert, et finalement, on va avoir des produits qui vont s'abîmer, qui vont se détériorer, etc. Donc, non, être agence de design, c'est travailler pour les marques, on l'a vu tout à l'heure. Aujourd'hui, on a 70% des Français qui aimeraient avoir les marques qu'ils achètent tous les jours en vrac. Donc, on travaille régulièrement avec des clients qui se posent la question de comment aller sur le vrac et réussir ce passage au vrac, parce qu'on a eu plusieurs échecs, voilà, dont Saint-Michel, dont Nutella, qui n'ont pas pris le bon chemin parce qu'ils ont simplement réduit leurs emballages pour en faire des produits de consommation individualisée. Et le vrac, ce n'est pas ça. C'est autre chose. C'est vraiment travailler sur un nouveau business model, être présent en magasin et peut-être par d'autres circuits de distribution. Ça, c'est vraiment les enjeux de demain sur le vrac, pour essayer d'apporter au consommateur effectivement cette juste dose dont il a besoin pour sa consommation quotidienne.
Alors, en fait, moi, je voyais à peu près ce que c'était que le vrac, mais pour moi, ça pouvait être que appliqué aux fruits secs, par exemple. Alors, vous pouvez me donner le spectre des aliments qu'on peut retrouver en vrac ?
Alors, vous avez raison, c'est principalement sur tout ce qui est légumes secs, fruits secs, parce qu'il n'y a pas de problème de conservation. On commence à beaucoup voir se développer les biscuits. Intéressant. On commence aussi à avoir des propositions très intéressantes sur tout ce qui est liquide, donc tout ce qui est vin, tout ce qui est huile et tout ce qui est entretien. Donc shampoing, lessive, etc. Un certain nombre de réseaux commencent à se mettre en ordre de marche pour proposer justement des objets de distribution, on va dire, adaptés à leur circuit pour permettre effectivement de proposer autre chose que des légumes secs. Donc oui, ça s'élargit, hein, du sec au liquide.
On viendrait avec nos flacons et on viendrait remplir notre dose de shampoing pour le mois, par exemple.
Exactement.
C'est dingue.
Alors ça, on a l'autorisation au niveau légal en France depuis l'année dernière de pouvoir apporter ces conditionnements dans les magasins, ce qui n'était pas le cas au préalable. Donc on a bien un enjeu, là on parle d'un enjeu essentiel, d'un enjeu légal sur le vrac qui est en train de se structurer et la France est leader européen dans la légalisation du vrac qui au démarrage était finalement extrêmement spontané. Donc avec toutes les dérives qu'une démarche spontanée non encadrée peut apporter, aussi bien en positif qu'en négatif, en fait.
C'est dingue, les Allemands ne sont pas devant nous, qui sont aussi
bien
bio.
Mais bien non. Non, on a la chance d'avoir des gens qui sont très, très investis en France. Voilà, on a Réseau Vrac, qui est un organisme extraordinaire, qui a monté, on est en mars en ce moment, on est dans le mois du vrac, figurez-vous.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que c'est le mois du printemps. Et donc, c'est nettoyage de printemps, on s'ouvre à des nouvelles recettes et on va, voilà, le vrac, c'est aussi la possibilité d'essayer de nouvelles recettes à la maison. Donc, je pense que c'est peut-être ça le lien, mais c'est surtout la possibilité de parler d'un sujet qui est super intéressant pendant un mois, ça, c'est pas mal.
Comment vos clients ici chez CBA réagissent quand vous leur parlez du vrac ? C'est pour qui en fait ? Parce que vous avez là aussi il y a plein de clients différents. À qui vous vous adressez et comment réagissent-ils ?
Ça dépend des clients. Quand on est sur des clients qui sont dans le retail et qu'ils ont besoin effectivement d'embrasser les nouveaux modes de consommation, soit la demande fait partie du brief et à ce moment-là, évidemment, on va y répondre en fonction de leur positionnement, etc. Soit elle n'en fait pas partie et c'est à nous en tant qu'agence de proposer ces modes de consommation qui ne sont plus alternatifs. Hein, quand on a un marché de plus de 1,2 milliard en 2020, on n'est plus du tout sur de l'alternatif, mais c'est bien proposer un produit qui va, en termes de retail, hein, qui va véritablement apporter une différence par rapport aux autres magasins. Un des enjeux du vrac demain en linéaire, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on a un vrai enjeu de formation des équipes en interne et on a un enjeu aussi de pédagogie auprès des consommateurs qui, finalement, ne savent pas d'où vient le produit, ne savent pas comment le conserver, ne savent pas comment le cuisiner. Donc on aura atteint vraiment ce switch au niveau du vrac à partir du moment où ce sera un acte routinier et où chacun pourra se dire « Ah ben oui, moi je fais ça, c'est super beau et je pourrai faire des recettes hyper sympas avec demain. »
Les grandes enseignes s'y mettent, hein. Il n'y a plus que les boutiques bio. Hein.
Alors non, c'est vrai que le démarrage du vrac a été opéré par les épiceries spécialisées en vrac. Pareil, en moins de 10 ans, donc non, c'était en 5 ans, on est passé d'une vingtaine de magasins à plus de 900 magasins. Enfin, c'était un chiffre absolument incroyable. Et aujourd'hui, la tendance est inversée. C'est-à-dire qu'on achète plus en France, en GMS, donc dans tout ce qui est supermarché, hypermarché, qu'en magasin bio ou en épicerie spécialisée en
du
vrac.
On achète plus du vrac dans les grands magasins, c'est dingue.
Ouais. Pour une raison qui est très simple, c'est que finalement, aussi à cause du Covid, on a réalisé ces achats au même endroit. Donc il y avait cette idée de proximité du vrac qui était là et qu'on achetait également.
Pourquoi êtes-vous devenue une militante du vrac ?
Parce que je crois au fait qu'on doit tous participer à une transition alimentaire. Et je dis bien transition alimentaire et pas transition écologique. Parce que je suis une amoureuse du manger. Ma grand-mère était restauratrice. Et que j'adore aider les gens à devenir flexitariens. Vous savez ce mot-là qu'on emploie beaucoup. Flexitarien, ça veut tout simplement dire réduire ses apports de protéines animales. Manger un petit peu moins de viande et manger un petit peu plus de végétaux.
De lentilles qu'on a devant nous.
Des amandes, etc. pour avoir une alimentation plus saine. Et je trouve que le vrac est un formidable outil pour le faire et que ça permet de toucher le plus grand nombre parce que, encore une fois, c'est moins cher. C'est entre 6% à 30% moins cher que les produits que vous achetez. Donc, c'est quand même juste génial. Enfin, pourquoi s'en priver ?
J'ai découvert ça en préparant cette interview, qu'en plus, c'était un vrai avantage économique.
Ah oui. Et avec les années, les mois, là, l'augmentation du coût des matières premières qui arrive, rapprochons-nous encore plus des producteurs. Essayons de rendre à César qui est à César, mais vraiment, on a des gens qui sont passionnés, des producteurs. On était sur un monde paysan incroyable en France. On perd énormément de fermes chaque année. C'est absolument terrible. Donc voilà, rapprochons-nous encore plus de ces gens-là qui aiment leurs produits et qui les rendent meilleurs pour nous chaque jour. Donc le vrac est un moyen de le faire. Et puis oui, moi j'ai c'est mon côté un peu rebelle de plein de gens disent que le vrac ça sert à rien. Donc non, le vrac c'est important et c'est d'autant plus important que les politiques sont derrière. C'est-à-dire que, clairement, ce mois du vrac dont on vient de parler, là, est soutenu par le ministère de la Transition écologique, qu'on a des nouvelles voies qui arrivent, etc. Donc, c'est un vrai mouvement de fond, c'est un mouvement de société. Donc oui, en tant qu'agence, à notre petit niveau, on essaye d'influencer les enseignes dont je parlais tout à l'heure, mais aussi les marques, parce qu'on travaille beaucoup avec des marques agroalimentaires. Je pense à des Dadi Sucre, par exemple. Demain, du sucre en vrac, on en a super envie.
C'est évident, ça paraît presque évident.
Ouais. Et on n'en a pas, en fait, ou quasiment pas. Donc, une belle marque comme ça trouverait forcément un nouveau chemin dans cette proposition-là.
Alors, Laurent, j'ai envie de vous demander, pour vous, c'est quoi une marque utile ?
Ah, vous m'interrogez par rapport à l'empreinte utile.
Oui, tout à fait, le nom du podcast.
Ouais, exactement. Alors, l'empreinte utile, pour nos auditeurs qui ne le savent peut-être pas, c'est un outil qu'on a mis en place, effectivement, depuis plusieurs années, qui permet, en fait, d'accompagner les marques dans la définition de leur utilité. Et on a créé 5 utilités. Faire société, apporter du bien-être, rendre plus accessible, développer le pouvoir d'agir et œuvrer pour l'environnement au sens large, hein, pas que écologique, vraiment au sens large de cette relation à la Terre, à la planète, etc. Alors, une marque utile, moi je crois que c'est tout simplement une marque qui fait du bien sans faire de mal. Et peu importe le bien que ça procure à l'individu, et là on rentre dans des jugements de valeur, etc. Donc ça fait du bien, ça donne le sourire, ça rend les gens... moi je crois beaucoup à la démarche de la petite goutte de l'eau, de l'océan, etc. Donc à partir du moment où on fait quelque chose de bien, où on va mieux, ça se diffuse, ça se transmet. Et sans faire de mal, parce que oui, aujourd'hui on peut plus, on n'a plus le droit. On avait cette parole du développement durable qui était répondre aux besoins d'aujourd'hui sans empiéter sur les besoins des générations futures. Ben, une marque utile, c'est ça. C'est l'utilité, c'est pas que fonctionnel, ça peut être très émotionnel aussi, ça peut être très superflu, très superficiel, mais on a aussi besoin de légèreté et de toute cette dimension-là, donc une marque utile, c'est ça.
C'est magnifique, on entend tout à fait ce que vous dites. Et vous alors, Laurence, qu'est-ce que vous allez faire cette année pour laisser votre empreinte ?
Cette année, j'ai décidé de plus cuisiner, de plus consommer de vrac. Et c'est vrai ce que je vous dis, parce que vraiment, c'est quelque chose. Je ne suis pas forcément une très, très bonne élève par rapport au vrac. Donc, je me suis dit, j'achète au moins une fois par mois du vrac. Et avec ça, je vais faire de la cuisine avec mes enfants. Donc, je vais le faire vraiment au niveau personnel. Et puis, pour être un peu plus utile dans mon quotidien, j'ai la chance de me former sur tout ce qui est RSE, de façon à faire progresser l'interne. CBA prend une accélération, un virage très très fort sur tout ce qui est RSE, donc aussi bien en interne qu'auprès de nos clients. Donc ça va être vraiment les deux leviers forts de 2022 pour moi.
Oui, il y a presque un côté ludique à aller réfléchir à quelle recette faire et que rajouter. Et c'est ça qu'il faut se dire. Moi, c'est ça que ça me donne envie. Je me dis, alors, est-ce que je mettrais pas les deux? Je rajouterais pas du lait de coco? Et puis, en avant-marche.
Oui, c'est ça. C'est cette idée de pouvoir d'agir dont je parlais. C'est aider les gens à se débrouiller tout seul, à faire encore mieux tout seul. Parce que on parle beaucoup de technologie, on parle de monde virtuel qui rend les gens un peu lazy, un peu, voilà, un peu apathiques, etc. Alors, certains. Mais la technologie, elle aide aussi à aller chercher de nouvelles recettes, à inventer des nouvelles recettes, à les partager sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, on a besoin, voilà, on a besoin de cette matérialité-là, on a besoin de ce plaisir-là pour se sentir vraiment bien dans son quotidien, quoi.
Bon, ça nous donne envie d'aller manger.
Vous avez faim, moi aussi.
Merci mille fois, Laurence. Ça, c'était passionnant. Et voilà, vous m'avez convertie. J'espère que vous avez converti nos auditeurs aussi.
Eh ben, je l'espère. Je vous laisse tout ça. Vous allez goûter avec toute l'équipe.
Au revoir.
Au revoir, merci.